Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Je les ai déjà un petit peu présentés dans le sommaire. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chroniqueuse dans le magazine Forbes. Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ça se passera début juillet. Et Éric Ayer, bonjour, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, co-auteur de « Une autre voie est possible vers un modèle social-écologique », c'est aux éditions Flammarion Champ Actuel. 74% des jeunes âgés de 18 à 30 ans affirment avoir fait l'objet de discrimination. 80% considèrent que les réseaux sociaux aggravent les discriminations et le harcèlement. Et 50% affirment avoir déjà cherché de l'aide pour leur santé mentale. Ce sont quelques-uns des chiffres tirés de la grande enquête sur la jeunesse réalisée par le Cercle des économistes. Jean-Hervé Lorenzi, d'abord, quels sont les principaux enseignements et surtout, pourquoi avoir choisi ces trois thèmes ?
Le thème, tout ça, c'est en préparation d'Aix, hein, parce que au fond, je crois que mes deux camarades et vous aussi, vous serez d'accord sur le fait que un pays, c'est largement sa jeunesse, bien même si les seniors sont très importants, et c'est sa jeunesse, que c'est très difficile de savoir ce que pense réellement la jeunesse. On a des sondages, notamment sur leur, disons des sondages sur leur taux de participation aux européennes, sur le fait qu'ils sont, semble-t-il, très largement influencés par le RN. Tout ça est quand même, à part ça, on ne connaît pas bien ce qui se passe. Donc ce que nous avons fait, et je veux dire, je trouve que c'était très utile, c'était non pas un sondage, pas du tout des sondages, sont des conversations qui ont eu lieu pendant 2 mois avec 60 000 personnes, 60 000 jeunes, donc de 18 à 30 ans, qui couvrent à peu près tous les types de population, 50% filles, 50% garçons, enfin, tout ça a été relativement bien fait. Et ce qui en sort, c'est au fond tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire une sorte d'inquiétude sourde sur le présent. Discrimination, ils ne se sentent absolument pas représentés par les politiques. Je crois qu'il y a 12% des jeunes qui se sentent représentés par le président de la République, qui lui-même n'est pas un vieux. Donc c'est assez curieux, comme je trouve, comme corrélation. On aurait pu imaginer qu'il trouve qu'il était bien.
C'est 64% des jeunes qui ne se sentent pas représentés par qui que ce soit en politique, et 78% considèrent que leur voix ne compte pas dans les décisions.
Voilà, donc c'est très important, alors que on n'arrête pas de parler de réchauffement climatique, de choses qui les concernent, de retraite, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et donc il y a ce regard qui fait que j'espère que à un moment ou à un autre, le gouvernement, les pouvoirs publics vont mettre sur le dossier de la pile, vraiment au niveau le plus important, ils vont mettre cette affaire de la jeunesse au cœur des discussions. Il y a un truc qui est très très étonnant que vous n'avez pas cité, mon cher Stéphane, c'est que 84%, non, c'est bien, c'est ce qui a marqué.
Oui, des jeunes estiment que le sport est un moteur d'inclusion sociale.
Non, c'est soyez 84%. Un peu optimiste. 84%. On disent qu'ils considèrent que la réussite de leur vie, ça n'est pas uniquement l'argent. Ça, c'est formidable. Alors, c'est normal, à 20 ans, on est moins sensible que le senior qui tient sa retraite. C'est clair. Mais 84%, c'est quand même assez formidable. Donc, au fond, si je devais résumer, c'est un regard assez négatif sur leur situation actuelle. Vous vous souvenez d'ailleurs que pendant la Covid, un jeune sur trois expliquait qu'il avait supprimé un repas sur deux.
Oui.
Donc c'était incroyable. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème majeur de la prise en charge des jeunes, et notamment sur leur insertion sur le marché du travail. Et par ailleurs, il y a cette espèce de générosité. Alors, c'est peut-être le propre de la jeunesse, mais 84% des jeunes qui considèrent que la vie, c'est pas uniquement l'argent, c'est pas mal.
Moi, j'ai mis ce chiffre en avant et ça me frappe, Anne-Sophie Alsif. 74%, c'est-à-dire 3 jeunes sur 4 qui ont fait l'objet de discrimination. C'est considérable.
Alors, c'est considérable. C'est vrai que la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de campagnes et donc on en parle beaucoup plus qu'avant. Donc, peut-être que ça existait aussi encore plus avant, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins mis sur le devant de la scène et la parole se libère plus aussi avec les réseaux sociaux. C'est vrai que ça peut être négatif, mais aussi positif. Donc, ça, il faut quand même le saluer. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment une perception, une sensibilité qui est beaucoup plus exacerbée et une mobilisation sur ces questions. Donc, là aussi, c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est l'impact économique de ça. Parce que souvent, ce qui est très difficile, on le voit, il y a beaucoup d'économistes, notamment Anne Boring, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, sur la discrimination. Ouais. C'est un coût vraiment en termes de croissance, vraiment pour la société, et pas que les jeunes, hein, que ce soit tout type de discrimination, que ce soit les handicapés, les seniors, les jeunes. On voit qu'en Europe, et notamment en France, on est un des pays où on a fait le moins de travail là-dessus pour justement essayer d'avoir le moins de discrimination, notamment à l'embauche, et notamment en termes de diversification dans les postes, et notamment les postes à direction.
Eric, hier, on va parler d'argent. C'est pas la priorité chez les jeunes. On n'aurait pas du tout eu le même résultat aux États-Unis, j'imagine.
Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Alors, non, mais je pense qu'effectivement, et ça a bien été précisé avant, je pense que quand on est jeune, effectivement, c'est pas l'argent au début qui est le moteur de nos ambitions. On a envie de s'épanouir d'une autre façon. Et après, petit à petit, quand on commence à s'installer, on comprend que, globalement, il y a quand même une situation financière qui est importante. Mais c'est vrai que ça corrobore un certain nombre d'autres analyses qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous voyez, on parlait de grandes démissions pendant la crise sanitaire. En fait, en France, il n'y a jamais eu de grandes démissions, mais il y a eu beaucoup de démissions. Donc, c'était plutôt une grande rotation. Et il n'y a jamais eu autant de démissions en CDI. Et quand on regardait pour quelles raisons vous démissionnez pour aller chercher un autre poste ailleurs, c'était pas pour gagner plus d'argent.
C'était la quête de sens.
Et voilà. La première raison, c'était je veux d'abord un travail qui a plus de sens et je veux avoir des conditions aussi de travail peut-être un peu moins éprouvantes. Donc c'était pas je ne démissionne pas pour essayer de trouver. Donc oui, effectivement, on a l'impression que peut-être pendant cette période Covid, on a un tout petit peu changé de priorité. Bon, mais je serai quand même très prudent parce que ça peut revenir assez vite. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, alors qui n'est pas vraiment dans cette étude, c'est dans d'autres études de sociologues, c'est que globalement, aujourd'hui, quand on pose la question est-ce que tu veux être indépendant ou autonome, en fait, les jeunes d'aujourd'hui veulent plutôt être autonomes qu'indépendants. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important dans le rapport au travail, c'est-à-dire être indépendant, c'est monter sa boîte et finalement de rendre compte à pas grand monde, sauf à son client. D'accord. Être autonome, c'est je veux bien être dans une entreprise, je veux bien être dans un collectif, je veux bien, à un moment donné, avoir un chef qui me dit ce qu'il faut faire, d'accord. Mais je veux être autonome dans la façon d'y arriver. C'est-à-dire, je veux être autonome dans la façon géographique de faire cette histoire. Est-ce que je viens sur le lieu de travail ou est-ce que je le fais à distance? Je veux être autonome dans les horaires. C'est-à-dire, si je veux travailler tôt le matin ou tard le soir, laisse-moi. Je te rendrai des comptes, mais laisse-moi autonome dans la façon d'y arriver. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça va être très dur pour les managers aujourd'hui de gérer tout cela, de gérer des jeunes qui veulent être complètement autonomes, des personnes un peu moins jeunes qui veulent venir au travail. Mais je pense que là, aujourd'hui, les managers doivent se dire, c'est à nous à nous adapter aux jeunes plutôt que l'inverse. Sinon, les jeunes vont aller voir ailleurs si finalement l'autonomie n'est pas plus verte et un peu plus importante dans d'autres pays.
Jean-Hervé, le fait que 6 jeunes sur 10, même un peu plus, ne se sentent représentés par personne en politique, est-ce que ce n'est pas inquiétant à l'approche des élections européennes?
Oui, en réalité, j'ai aussi regardé hier soir les. Alors là, ce sont des sondages très sérieux. Les sondages sont toujours sérieux, mais très très actuels sur les élections. J'étais frappé de voir que finalement, le pourcentage des jeunes qui ont décidé de voter est pas si éloigné que ça de l'ensemble de la population. Donc, je croyais que c'était beaucoup plus net, que les jeunes ne s'intéressaient pas du tout. Évidemment, pour le moment, un mouvement qu'on retrouve un peu partout, qui est le fait que le RN arrive en tête de manière très significative.
Derrière, y compris chez les jeunes.
Surtout chez les jeunes. C'est là où c'est le plus net. Donc c'est quand même, il faut essayer de trouver les solutions qui fassent qu'ils se sentent mieux. Ça correspond aux 50% qui, au fond, se sentent mal. Et je dois dire que il y a eu quelques efforts, mais il faut vraiment relever les manches, parce que vous avez quand même encore 1,5 million, enfin personne n'est tout à fait au clair, mais disons de jeunes qui sont des NIS, qu'on appelle les, qui n'ont ni travail ni formation, qui sont dans leur immense majorité comme tout le monde, hein, ils sont comme nous trois quand on était plus jeunes, et moi c'est encore plus loin, c'est ils ont envie de travailler, ils ont envie d'avoir une vie normale, enfin cette idée que c'est volontaire de leur part est totalement stupide, et ça, pour le moment, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas du tout de... C'est l'espèce de mouvement qui, au fond, la France aurait assez d'atouts d'avoir une jeunesse un peu plus nombreuse qu'ailleurs. C'est formidable d'avoir une jeunesse quand même plus... C'est quand même plus, comment dire...
En matière de
pushing que de, ouais. d'avoir une jeunesse. Et franchement, on ne fait pas grand-chose pour cette jeunesse. Donc, c'est un appel... Cette étude, mais qui est complétée par ce que tu as dit, par bien d'autres études, c'est un appel vraiment au fait que il faut que le gouvernement considère que c'est. Je crois qu'il y a un ministre de la jeunesse, non ? Je suis pas sûr. Peut-être.
Ah, Anne-Sophie Elstif.
Oui, par rapport aux situations de déclassement et de discrimination, ce qui est aussi assez important, on l'a dit hein, sur l'autonomisation, c'est que ça dépend aussi de la qualification et du type d'emploi. Comme vous avez un aspect sur les réseaux sociaux, vous montrez, vous mettez beaucoup plus en scène votre vie. Vous avez beaucoup de jeunes qui non pas, lorsque vous n'avez pas un emploi, on va dire, plutôt intellectuel et surtout pour tâche, c'est très facile à ce moment-là, en effet, de faire du télétravail, d'avoir des horaires flexibles, etc. Tous les emplois ne sont pas comme ça. Et donc, pour les emplois moins qualifiés, vous n'avez pas du tout cette autonomie. Et donc, cet aspect de discrimination, en tout cas d'inégalité, se ressent beaucoup plus par rapport à voilà, 30-40 ans où il n'y avait pas le télétravail, toutes ces choses. Et donc, globalement, même si vous aviez des qualifications différentes, vous aviez un fonctionnement de travail dans l'entreprise où tout le monde venait à la même heure, partager les mêmes choses, qu'on voit beaucoup moins. Donc il y a aussi ce sentiment d'augmenter et d'avoir une augmentation des inégalités dans la jeunesse.
Et on signale que les conclusions de cette enquête du Cercle des économistes feront l'objet de groupes de travail lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence début juillet.
Oui, mais au fond, là, beaucoup de modestie, parce que ce sont des groupes intéressants, mais par nature limitée, 60 000. En fait, ce n'est pas 60 000 qu'il y a eu. Hier soir, j'ai revérifié, il y a eu 90 000 jeunes qui ont participé aux conversations. Ce qui veut dire que ce n'est pas le génie du service économiste, c'est le fait que des jeunes ont envie de s'exprimer sur à peu près tous les trois sujets que vous avez évoqués. Mais les recommandations, c'est par des jeunes qui ne sont pas aussi représentatifs. Donc, il y aura... On va quand même essayer de diffuser cette description de la jeunesse française, qui est beaucoup plus large que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et de la diffuser auprès de tous les gens qui vont intervenir, pour qu'ils, dans leur tête, ils se disent bah, « je traite ce sujet, mais il se trouve que je dois aussi avoir cet aspect intergénérationnel qui est fondamental ».
Ça n'aura échappé à personne, l'heure est aux économies, on va en parler avec vous, Eric Heyer. Vous avez publié vos perspectives économiques. Les mesures d'économie ont pour objet de faire réduire le déficit, mais ça aura un impact sur la croissance. Vous l'avez chiffré, 0,2 points de croissance en moins cette année et 0,6 l'an prochain.
Oui, alors, il faut... Oui, le 0,2, c'est les 10 milliards qui étaient annoncés. Alors là, pour être complètement franc, j'ai pas compris hier s'il y avait encore 10 milliards à attendre ou si c'était ces 10 milliards.
Alors moi, c'est
pas...
ce que j'ai compris, c'est qu'il allait falloir trouver 10 milliards d'économies supplémentaires.
En plus des 10 milliards. Bon, enfin voilà. Donc du coup, il va falloir encore revoir nos prévisions.
Oui, les 10 milliards, c'était pour le 4,9 et il va falloir revenir au 4,9.
Ok, donc c'est pas 10 milliards, donc ça sera 20 milliards. Et donc, mais les calculs d'hier, c'était uniquement sur les 10 milliards qui étaient déjà annoncés. On a fait notre conférence de presse avant ces annonces-là.
Et vous dites, c'est sur les 10 milliards, 7 ont un impact direct sur la croissance.
Alors effectivement, on a essayé, mais alors c'est très compliqué, parce que entre nous, celui qui est capable de dire précisément où sont ces 10 milliards, en tout cas nous on ne l'a pas trouvé, et donc on a essayé précisément, et en discutant aussi avec les administrations, pour essayer de ne pas trop se tromper. Donc effectivement, sur les 10 milliards, il y en avait à peu près 7,4 milliards qui étaient des vraies économies, d'autres c'était un peu moins considérées comme des économies, et donc avec pas d'incidence sur l'activité. Et donc ensuite, bah, vous voyez, on n'a pas fait non plus des choses extraordinaires. C'est que, vous voyez, quand vous enlevez 7 milliards et demi, eh ben, globalement, il y a bien quelqu'un qui perd cet argent-là. Et donc, à court terme, en tout cas, eh ben, ça a une incidence sur l'activité. Eh ben, ça a une incidence avec des, ce qu'on appelle des multiplicateurs. Vous voyez, ben, le multiplicateur, non, bah, ils ne sont pas extraordinaires. On les a mis exactement à 0,8. Vous voyez, donc, c'est-à-dire quand vous... vous voyez, il y a un débat chez les économistes entre est-ce que les multiplicateurs sont importants ou pas. Vous voyez, si vous êtes un ricardien, vous pouvez considérer, comme Jean-Marc Daniel, que les multiplicateurs peuvent être même négatifs. C'est-à-dire quand vous faites des économies, c'est bon pour la croissance économique. Le raisonnement serait que le citoyen, voyant que les déficits baissent, eh ben, reprend confiance et donc consomme. Ah, oui, je pense que là, aujourd'hui, il n'y a que Jean-Marc Daniel pour avoir ce type de raisonnement-là, des multiplicateurs négatifs. Voilà, mais on peut se poser la question, et de l'autre côté, des Keynésiens qui pourraient monter jusqu'à quasiment 2 de multiplicateurs. C'est-à-dire quand vous enlevez 1 euro, ben, ça fait 2 euros d'activité en moins. D'accord. Bon. Avec 0,08, vous voyez, on est globalement ce que nous disent les modèles, aujourd'hui en tout cas notre modèle, c'est-à-dire c'est relativement modeste, d'accord ? Mais donc à court terme, vous arrivez à faire baisser vos déficits, mais attention, une partie va dans la destruction d'activité et donc un peu moins de recettes, et donc vous êtes un peu déçu dans la réduction des déficits par cela. Et moi, ça, je pense que, vous voyez, cette histoire de multiplicateur va revenir au devant de la scène. Ça a été extrêmement discuté entre 2011 et 2014. On a fait une erreur gigantesque. Il faut se souvenir de le FMI en 2013 avec son économiste Olivier Blanchard qui a dit ouais, désolé, nous nous sommes trompés sur la valeur des multiplicateurs. Mmh. Donc en gros, l'histoire, c'est ils avaient évalué ces multiplicateurs à 0,2. D'accord. Et donc, ouais, faire une austérité, finalement, ne casser pas trop la croissance. Ils ne sont pas allés jusqu'à chez Jean-Marc Daniel, moins 0,2, mais à 0,2. Et ensuite, après coup, on dit, ah, désolé, c'était pas 0,2, c'était 1,3. Et donc, quand vous avez des multiplicateurs aussi élevés, bah, quand vous faites de l'austérité, ça casse la croissance, ça casse les recettes, et donc les déficits, bah, ne se réduisent pas. Et donc, vous voyez, ça, cette discussion, et on sait pourquoi les multiplicateurs sont élevés, d'accord. Et bah, il va falloir la voir, sinon, attention, on va être très déçus sur, la réduction des déficits malgré les efforts qu'on va demander aux Français.
C'est intéressant ce que vous dites, et vous citez Jean-Marc Daniel, lui nous explique que les hausses d'impôts seraient bien plus dommageables pour notre économie parce que ça casserait la croissance.
Alors, c'est vrai que nous, dans nos prévisions, et on avait en effet des prévisions qui n'étaient pas non plus aussi optimistes que le gouvernement, la grande problématique, c'était quand même la prévision de croissance économique qui était à 1,4% dans le dernier PLF, qui était quand même, même dans les hypothèses les plus hautes, tous les consensus, on n'était pas du tout à ces niveaux. En général, vous avez 0,2-3 points au-dessus du consensus, ce qui est normal parce que c'est le gouvernement, mais là, on était quand même très au-dessus. Donc c'est vrai que là, il vient d'être voté et déjà, on passe de 1,4 à 1%. Et vraiment, le moteur et ce qui est vraiment central pour comprendre comment va se faire le déficit, c'est vraiment vos hypothèses de croissance économique. Donc c'est vrai que nous, on était dès l'année dernière à 0,8. Le 1,4, c'était vraiment intenable. Donc déjà, c'est normal qu'on ait ce déficit beaucoup plus important. Deuxième élément, comme en effet, on a moins de croissance économique, eh bien, en effet, moins de recettes, c'est ce qui s'est passé, et donc un déficit beaucoup plus important. Après, en effet, c'est vrai sur les multiplicateurs, mais ce qui est aussi vrai, c'est la manière dont est structurée la croissance française. La croissance française, son premier moteur, c'est la consommation. Par rapport à d'autres pays, comme par exemple les pays du Nord ou l'Allemagne, qui sont plus dépendants du commerce extérieur. Et donc, quand vous avez ce modèle de croissance, eh bien, en effet, toucher aux dépenses publiques, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus récessif. Parce que, comme on l'a dit, c'est tout de suite du revenu en moins. Quand on parle des dépenses publiques, l'INSEE a fait une très bonne note là-dessus en disant qu'on est un des pays les plus égalitaires au monde parce qu'on redistribue. Et donc, la majorité des impôts que vous payez, c'est du revenu qui est redistribué aux Français. Donc si vous attaquez à ça, c'est le problème. Et puis l'autre élément, c'est sur les économies. C'est sûr que le gouvernement veut toucher plutôt à ce qui est sur le moyen long terme pour justement pas essayer d'avoir trop d'impact à court terme. Mais on voit, recherche, éducation, transition écologique. C'est vrai qu'on se dit si ça va mieux, on pourra remettre l'argent dessus.
Mais pour l'instant, il faut les frais des mesures d'économie.
Exactement, en termes de croissance potentielle, qu'on soit à ces postes qui créent beaucoup de valeur ajoutée.
Jean-Hervé Lorenzi, faut faire attention, si j'ai bien compris, aux mesures d'économie, parce qu'on ne va pas guérir, mais on va tuer le malade.
Oui, la formule est bonne. Moi, je suis très admiratif de ce qu'a fait l'OFCE. Et j'ai trouvé en plus qu'ils étaient très prudents, parce que c'est vrai que c'est pas excessif. Vous savez, toute cette affaire est instrumentalisée politiquement. les 4,9% qui étaient prévus, c'était pas formidable sur le plan de l'équilibre budgétaire. Donc, je veux dire, bon, c'est vrai que l'augmentation très brutale de 0,6, mal présentée, cachée ou pas cachée, enfin, moi, j'en sais rien, et à mon avis, on ne le saura que dans quelques années, a donné le sentiment à toutes les oppositions possibles et imaginables d'expliquer que désormais, la France était au bord du gouffre, etc. Moi, le bord du gouffre, et je crois qu'on est tous les trois d'accord, c'est quand même le fait d'avoir un ralentissement de la croissance très significatif. Juste un mot, Jean-Marc Daniel est un ricardien, on va l'appeler ricardien de droite, et il y a des ricardiens plus raisonnables, hein, donc plus raisonnables. Mais tout ça pour dire que toute cette affaire est une affaire de communication, parce que il faut absolument montrer aux agences de notation que c'est pas la fin du monde, qu'on a tout ça en main. On n'a pas le dispositif en main quand on est à 5% de déficit. Donc tout ça, c'est du pipeau de première, mais il se trouve qu'on a besoin de s'agiter sur le sujet. Je trouve que les perspectives qui ont été évoquées par Eric et par Altif il y a 10 secondes sont extrêmement dangereuse sur le fait que si on plonge, on commence à plonger dans une quasi-stagnation de notre pays, vous allez voir les résultats de juin, les européennes, vous allez voir ce qui va se passer dans le pays. Moi, je suis très inquiet, puisque c'est de la politique, ça va retomber sur de la politique. Et je trouve que le gouvernement devrait être extrêmement prudent avant de se lancer dans ces opérations qui, une fois de plus, sont essentiellement de la communication. Qu'il lance une vraie réforme du fonctionnement de l'État que tout le monde attend depuis 30 ou 40 ans.
C'est-à-dire... Mais pas de concours Lépine des mesures d'économie, comme le disait Clément Beaune.
Je vais vous dire, je vais supprimer 4... Alors, c'est assez simple, d'ailleurs, sur le fond. Comme on ne va pas pouvoir supprimer toutes les bagnoles qui sont dans les cours des ministères, parce que c'est de ça dont il s'agit, il va y avoir évidemment un prélèvement sur la protection sociale. C'est là-dessus qu'on va aller. Et l'intervention d'Attal l'autre jour est une intervention qui n'aurait même pas été envisageable depuis 20 ou 30 ans. Donc on va y revenir, mais c'est très important de voir que ce moment précis doit être traité de manière politique aussi, et pas exclusivement essayer de faire un peu de communication pour les uns pour les autres.
On continuera cette discussion juste après la pause. On parlera également de l'encadrement du droit de grève. À tout de suite.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.